Voilà, nous voulons rester dans le calme et la confiance en Dieu. Dans le calme et la confiance. La dernière fois que j'avais partagé la parole, j'avais parlé sur le fait d'attendre, savoir que Dieu des fois se fait, Dieu se fait désirer, et il place l'attente dans nos vies, l'attente dans nos cœurs, mais ça aussi, c'est pas un moment, l'attente c'est pas un temps dans lequel nous restons passifs, c'est pas un temps dans lequel nous restons inactifs, mais nous restons observateurs, et attendre, c'est savoir être attentif à ce que Dieu fait. Attentif à ce qu'il accomplit dans nos vies, attentif à sa volonté. Le désir de Christ, c'était d'accomplir la volonté du Père. C'était d'accomplir sa volonté, d'être attentif à ce qu'il voulait faire, de regarder, de chercher du regard, de chercher dans la prière et dans le secret aussi de son cœur, dans le secret de notre cœur, ce que Dieu est en train de faire. Des fois, on ne comprend pas tout. On ne sait pas quels sont les chemins par lesquels Dieu nous dirige. Mais c'est toujours mieux de marcher dans un petit chemin parsemé d'épines, des fois, qui écorche des fois un petit peu nos genoux, et savoir que nous allons dans la bonne direction, que d'aller sur ce chemin large et spacieux dans lequel tellement de monde s'engouffre et qui est peut-être confortable, qui est peut-être agréable, mais qui va droit vers la perdition, comme nous le dit la parole. Ce chemin large et spacieux, nous prenons parfois des petits chemins, des chemins où on se dit à chaque pas, mais qu'est-ce qui va nous attendre au prochain tournant? Qu'est-ce qui va nous attendre la prochaine fois? Et tout ça, on a besoin de placer notre confiance en Dieu. Mais on n'est pas laissé seul. Nous ne sommes pas seuls. Et Christ nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qu'il enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour quoi faire? Pour nous conduire. Pour nous conduire. Si on cherche notre chemin, celui qui nous montre le chemin, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous montre où aller, c'est le Saint-Esprit qui dirige nos pas. Et Jésus-Christ a dit, donc dans Actes, chapitre 1, et je l'avais cité la dernière fois que j'avais partagé, dans Actes, chapitre 1, et au verset 4 et 5, il est dit, « Comme il se trouvait avec eux, donc après qu'il l'eut ressuscité, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors là-dessus, les disciples posent tout un tas de questions, mais Jésus revient au centre de ce qu'il dit. Il dit, « Mais vous recevrez, au verset 8, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur demande d'attendre et ils attendent. Ils doivent attendre pour cela une dizaine de jours. 10 jours à attendre. Je ne sais pas, le Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une puissance surviendra sur vous. Ils ont passé 10 jours à attendre. Pourquoi? Pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quelle est cette puissance? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et dans la Bible, il est question du Saint-Esprit. Il est question, et dans l'Ancien Testament, il en est question, le Saint-Esprit. Esprit, ça veut dire, ça se prononce, c'est ruach en hébreu, et ça veut dire le vent, le souffle. Donc en fait, à chaque fois, on pourrait dire le souffle, le vent. Et finalement, on ne se rend pas toujours compte, mais Marie-Josée nous disait que, voilà, elle bénit le Seigneur des jours de ces années, qu'à chaque fois qu'elle a un anniversaire, elle bénit le Seigneur, parce qu'il y en a qui se plaignent, « Ah, je vieillis. » Et c'est vrai, on comprend parfaitement que, « Seigneur, merci parce que j'ai une année de plus. Merci aussi parce que j'ai un jour de plus, parce que chaque jour, le miracle que Dieu fait, il est dans nos vies. Ce souffle de vie que nous avons reçu, chaque instant nous respirons, n'est-ce pas? Chaque instant, nous respirons, à chaque instant, nous avons ce battement, et on ne s'en rend même pas compte. On ne réalise même pas, c'est inconscient bien sûr, mais on réalise même pas, sauf jusqu'au moment où, si on s'étouffe, si on avale de travers, là on se rend compte qu'on a besoin de respirer. Là on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous anime et qui fait qu'on respire. Mais le souffle de Dieu, c'est ce souffle qui est là, omniprésent, dans nos vies, et on ne se rend pas toujours compte qu'il est là, présent dans nos vies. On ne se rend pas toujours compte qu'il souffle dans nos cœurs, une pensée, une inspiration, quelque chose de particulier pour accomplir la volonté de Dieu. Donc dans Genèse 1-2, il est question de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est cela, et Dieu parla et cela est. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand il est question de vent, il est question de mouvement. Dieu est un Dieu de mouvement. Et c'est pas pour rien quand Christ, dans le livre de Jean, est appelé la parole. La parole, nous ne pourrions pas parler s'il n'y avait pas en nous un souffle. La parole n'est que le résultat d'un souffle. Et Christ, la parole incarnée, est le résultat aussi de ce souffle. Et ensemble, ils ne font qu'un. Et Christ et le Père ne font qu'un. Parce qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Comme nous-mêmes, on aurait du mal à distinguer ce souffle, cette respiration qui est là, et le fait que je pense, et le fait que je réfléchis, le fait que ci et que là, c'est moi. De la même manière, Dieu s'est présenté aux hommes en Jésus-Christ. Ce souffle, cette respiration. Le vent, c'est pas anodin, parce que le vent, vous savez, je veux dire cela si je reste très terre à terre, quand on a du vent qui souffle, c'est qu'il y a en général, on parle d'une dépression, d'accord ? Il y a une température chaude, il y a une température basse, et hop, ça crée un vent. Nous à la maison, c'est bien parce que la maison est orientée d'est en ouest, donc quand le soleil il est sur la gauche, ou il est sur l'est ou sur l'ouest, on a toujours un courant d'air qui passe entre les fenêtres qui viennent de l'est et de l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences de température. Bon, voilà, je veux pas. Le but c'est pas de faire, c'est pas de rentrer dans ce genre de détails. Mais c'est pour dire que le souffle est associé à un courant, est associé à un mouvement. Et quand on parle, quand Jésus parle et dit, vous avez été baptisés d'eau, vous avez été baptisés aussi donc de la même manière, vous serez baptisés d'esprit. Il est question de courant, on parle de courant d'air, il y a les courants d'eau, il y a toutes sortes de choses qui créent la vie. Sans les courants d'eau dans les océans, sans les grandes circulations d'eau entre les eaux chaudes et les eaux mères, les eaux du sud, on aurait un problème. On aurait un problème parce que les océans deviendraient des marécages. Dieu a fait les choses merveilleusement, mais il a créé les choses, il a créé de la vie dans le mouvement. Dans le mouvement. Et c'est là que s'inscrit le Saint-Esprit. Le souffle qui nous caractérise notre vie, c'est bien sûr à la naissance, d'accord ? Le premier souffle, et quand on voit un enfant qui naît et qui prend sa respiration, c'est magnifique. Et à la mort, le dernier souffle. La naissance et la mort. Mais quand on parle de la naissance, c'est pas le commencement de la vie, la naissance. Ce souffle-là, il était déjà présent, il attendait d'être poussé. Et avant la naissance, il y a la formation que l'enfant reçoit dans le ventre de sa mère. Jusque-là, il ne respire pas. Mais le premier souffle, c'est ce qui le propulse dans la vie. C'est ce qui le propulse dans la réalité. C'est ce qui le propulse dans le fait que tout devient clair. Les lumières, les bruits, tout ce qui était opaque, tout ce qui était lointain. Et de la même manière, le Saint-Esprit nous propulse dans la réalité de Dieu. Loin de cette réalité-là, toutes choses sont floues, sont éloignées, sont opaques. Mais l'objectif et le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir les yeux ouverts sur la réalité de la vie qu'il nous propose en lui. La réalité spirituelle qui veut se présenter à nous. Et ce souffle-là, c'est ce qui sort du plus profond de nous. C'est pas uniquement quelque chose qui vient là comme ça, mais c'est ce qui sort du plus profond de nous. À chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre vie, nous vivons un miracle de Dieu parce que le souffle est là. Alors là, je parle du souffle physique, mais nous vivons aussi le miracle de Dieu parce que le souffle de l'Esprit est dans nos vies. Et ce souffle que nous avons là, c'est aussi l'image du Saint-Esprit qui souffle dans nos vies. Sans ce souffle, nos vies ne tiendraient pas. Nous sommes attachés à l'Esprit de Dieu par cela. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. Bon, il dit beaucoup de choses, mais il dit en somme que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas uniquement qu'on ait une connaissance de lui, mais c'est qu'on ait qu'on puisse avoir les outils nécessaires pour connaître sa profondeur. Pas uniquement je connais Dieu, oui, je connais les choses, je connais ce que la Bible dit, mais qu'on puisse avoir une perception de la profondeur de Dieu. La profondeur de Dieu dans notre vie, au travers de son conseil, et la profondeur de Dieu dans ce qu'il est, dans la grandeur qu'il est. Et Christ parle de naître de nouveau. Christ parle dans la parole, lorsque les disciples, et notamment un docteur de la loi, je vais le prendre, allez, on va lire un peu quand même. Dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 5, donc il y a un pharisien qui vient voir Jésus, Nicodème, et ce pharisien, c'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi. Il connaît bien toutes ces choses. Et il le dit, Seigneur, nous savons, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, au verset 2. Et verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Eh bien, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc là, Nicodème, par la suite, il ne comprend pas, toujours pas. Et Jésus lui dit, mais quand même, tu es docteur de la loi, quoi. Tu as toute la parole devant toi. Tu as devant toi tout ce qui est possible. Les gens, en plus à l'époque, ils savaient pas forcément lire. Et lui, il avait tous les moyens à sa disposition pour lire, pour creuser, pour comprendre cela et pour comprendre la profondeur de la parole de Christ. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cette parole est assez forte parce que elle pose la condition, finalement, pour un croyant, pour dire « je suis participant du royaume de Dieu ou pas ». Je prends part au royaume de Dieu ou pas. Et c'est une chose que de connaître des histoires sur la Bible, s'il y en a qui... moi, c'est le désir aussi pour mes enfants, que ce ne soit pas uniquement des histoires que je leur raconte le soir, pour eux, mais qu'ils puissent à un moment donné avoir ce déclic. Et je crois profondément que c'est le Saint-Esprit qui fait ça, pour à un moment donné comprendre que c'est de leur vie qu'il s'agit. C'est pas uniquement les histoires que papa ou maman racontent, c'est pas les histoires qu'on raconte à l'école du dimanche, et on peut connaître tout un tas de choses. Les enfants qui peuvent connaître mon fils Johan, il connaît des choses, c'est sympa. Mais après, est-ce que le cœur de tout ça, il est là? Peut-être pas encore, alors je vais pas... Mais ça peut être pareil dans notre vie. On peut avoir une connaissance de Dieu, mais on peut ne pas connaître Dieu. On peut ne pas avoir cette proximité avec lui. Et quand je parle de proximité, c'est pas... C'est ce cœur à cœur qui fait que nous avons conscience de lorsqu'il nous parle. Nous avons conscience de ce qu'il fait. Et des fois, bien sûr, on ne sait pas tout, mais nous sommes nés de nouveau. Et quand on parle de naissance, il est question... C'est un terme assez fort, parce que la naissance, c'est pas quelque chose d'anodin, d'accord ? La naissance, c'est quelque chose qui se fait dans la souffrance. Et Dieu l'a bien dit, tu vas donner naissance à Ève et dans la souffrance. Et c'est pas quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui se fait dans la souffrance, et dans une souffrance inouïe. Et le premier souffle de la vie vient dans la souffrance d'un autre. Vient dans la souffrance d'un autre. Le bébé, on peut pas, on sait pas, bon, bien sûr, on parle qu'il y a des souffrances, mais il y a des souffrances de la mère qui est là. Alors bien sûr, je parle pas de la péridurale, hein. Hein, mesdames, vous savez que ça arrange bien des choses, mais la vie telle que Dieu nous l'a donnée, c'est aussi ça qu'il a tracé, c'est-à-dire que on porte la naissance de quelqu'un, quelqu'un ne vient à naître que par la souffrance de quelqu'un d'autre. Et lorsque Christ parle, il parle de la naissance d'eau, donc on associe cela au baptême de l'eau, et gloire à Dieu pour la semaine prochaine, parce que ben, donc, il y a des frères et sœurs qui vont passer par là, le baptême de l'eau, ce baptême d'immersion. Mais là encore, nous on baptise dans un baptistère, en appuyant sur la notion d'immersion, bien sûr, mais il y a aussi cette notion dans le baptême, cette notion de courant, d'eau qui court. Quand Jean baptisait, il baptisait dans une rivière. Alors, c'est bien, on ne peut pas le faire ici, hein, mais on ne va pas aller dans la Seine. Et il baptisait dans la rivière, pourquoi ? Parce que justement, il fallait qu'il y ait... Ce n'était pas uniquement le fait d'être immergé, c'était aussi le fait qu'il y ait du courant. Et aujourd'hui, les Juifs ont toujours des baptêmes quand ils veulent demander pardon et tout ça, quand ils veulent se purifier. C'est ce qu'on appelle des mikvés. Et ce sont des principes, il y a des principes toujours d'un courant qui parle. Et je trouve ça intéressant que Christ ait parlé du baptême d'eau et du baptême de l'esprit, parce que le courant, c'est ce qui naît de cette différence de hauteur entre un point haut et un point bas. Le fait que Christ, que Dieu fait couler sur nous des choses, et c'est ça qui le fait, tout notre corps entier est immergé, et ce que Dieu fait couler son eau sur nous, et ce qui est passé est ancien. Toutes choses, voici, sont devenues nouvelles. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans notre vie. Les choses anciennes sont passées. Et cette naissance de l'esprit, cette nouvelle vie, cette direction qui est souvent plus latérale, d'accord ? Les vents, ils vont pas forcément verticalement, mais quand on les sent, en général, c'est comme ça. Et moi, ça me fait penser vraiment à ce qui a été dit dans la parole, afin que nous connaissions la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, nous disons de la connaissance de Dieu. Que les choses que nous connaissions de Dieu, ce soient des choses profondes, et pas uniquement des petites connaissances. Et donc, naître de l'esprit, cette nouvelle vie et cette direction que Dieu veut donner. La nouvelle naissance, c'est la découverte d'un monde nouveau. Cette découverte d'un monde qu'on pensait connaître, mais qu'on ne connaît pas selon ce qui est vrai, ou que l'on ne peut connaître, que Dieu veut nous amener à connaître selon ce qui est vrai en tout cas. Et finalement, on se rend compte, dans la grandeur de Dieu, combien on est fragile, combien nous sommes peu de choses, et combien Dieu est tout. Et combien pour un rien, on entend des fois des gens qui partent comme ça, vers un repos éternel ou autre chose, et ça peut arriver brutalement. Ça peut arriver brutalement parce que nous ne sommes pas en maîtrise de notre propre vie, mais Dieu, lui, est en maîtrise de nos vies. Et s'il nous a donné une chose, c'est de pouvoir lui faire confiance, c'est de savoir nous laisser conduire et diriger par lui. Et dans ce que j'ai lu tout à l'heure, dans Jean 3, 7, il est dit, Christ dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous sommes une brindille portée par le vent. Nous sommes une brindille. Nous ne sommes pas grand-chose, mais ce pas grand-chose a du prix aux yeux de Dieu. C'est étonnant. Comment, Seigneur, est-ce que tu peux t'attacher autant à moi ? Moi qui ne suis qu'une brindille portée par le vent. Et parce que nous pouvons être portés par le vent, nous pouvons aller dans la direction que Dieu veut. On pourrait parler aussi de joncs, vous savez, les joncs qui courbent lorsque le vent passe. Et nous avons besoin d'être comme ces joncs aussi là qui se courbent lorsque le vent passe. Et celui qui ne veut pas se courber, qu'est-ce qui se passe? Il casse. Il casse. Nos vies ont besoin de se courber devant Dieu. C'est pas pour rien. La prosternation, c'est se courber entièrement devant Dieu. C'est prendre, c'est accepter la direction que Dieu veut. C'est accepter que nos vies soient peu de choses devant lui. C'est accepter que ce que nous sommes tout entier repose là, sur ce qu'il y a de plus bas, sur ce sol-là, parce que nous ne sommes que peu de choses, mais notre valeur est véritablement en Dieu. C'est lui qui nous donne la direction pour nos vies. Il nous dirige et il nous conduit, comme ce jonc sous le sens du vent. C'est ça que le Seigneur souhaite. Et bien sûr, des fois on résiste, mais grâce à Dieu, on ne casse pas si facilement parce que Dieu sait assouplir nos cœurs. En tout cas, je l'espère, Dieu sait assouplir nos cœurs, ça c'est sûr, et il sait se donner les moyens pour que nos vies puissent à un moment donné ou à un autre entendre sa voix. Nous qui confessons le Christ, nous qui le cherchons, nous devons chercher d'abord et avant tout la direction de Dieu pour nos vies. Et Jésus a dit en Jean 16 et au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Et nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Nous sommes appelés à marcher, à aller dans une direction particulière avec lui, à marcher, mais à marcher sous la conduite de son esprit et à marcher dans la vérité. Des fois, nos vies sont en plein, on voudrait marcher dans la vérité, mais combien le mensonge, combien des fois la duplicité, des fois trouve une facilité dans nos vies, trouve une facilité dans nos paroles, dans ce qu'on voudrait dire des choses vraies, et puis peut-être parce qu'on a peur, parce que différentes choses, voilà, on se laisse emporter par un mensonge. Mais Dieu est le Dieu de vérité. Il y a toujours une notion de mouvement, de conduite et de direction associée au Saint-Esprit, associée à l'Esprit que Dieu veut placer en nous. Aller où va le vent, accepter la direction fixée par le Saint-Esprit. Et des fois, on ne comprend pas tout, c'est clair, mais parce que Dieu veut nous faire marcher dans la vérité, dans ce qui est vrai. Les projets de notre cœur, toutes sortes de choses, Seigneur, prends ces projets entre tes mains. Si c'est de toi, alors donne-leur du crédit. Mais si c'est pas de toi, alors dirige-moi dans ta volonté. Dirige-nous dans ta volonté, parce que nous ne voulons pas marcher écartés de ce chemin dans lequel Dieu veut nous amener. Marcher selon la vérité, ça a un mot, c'est devenir et rester authentique. Et l'authenticité dans la vie du chrétien, c'est la... Pour moi, j'aime beaucoup parler d'authenticité, je trouve que c'est un mot qui m'est très cher, parce que nous avons besoin d'être authentiques. Par la force des choses, dans le monde qui nous entoure, on peut avoir différentes habitudes, on peut être entraîné dans différentes manières de regarder les événements, de regarder les situations, de se moquer, de ci, de là. Mais Dieu nous appelle à être authentiques, à être vrais, à ne pas accepter de marcher selon le conseil des méchants, à ne pas accepter de marcher dans des voies que lui-même ne veut pas, que lui-même n'accepte pas. Et des fois, parce que nous voudrions peut-être bien marqué auprès de ceux qui nous entourent, eh bien, on se laisse emporter. On se laisse gagner par une attitude ou une autre. Oui, c'est vrai que ça fait bien. Ah, tiens, telle personne a fait ça. Oui, c'est vrai, c'est rigolo ou autre chose. Ça ne veut pas dire, bon, faut mettre une distance. On peut rire un petit, de pas mal de choses quand même. Hein. Mais Dieu prête de l'attention particulière à chacun d'entre nous. Il prête de l'attention à chacun d'entre nous. Et si nous entendons, si par hasard, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais si par hasard, un jour, nous venions à entendre quelque chose contre un frère ou contre une sœur, est-ce que nous pensons que c'est être conduit par l'Esprit? Que de continuer et de poursuivre dans cette pensée-là? Parce que lorsque l'on goûte à la moquerie, lorsque l'on goûte à se laisser entraîner dans cela, après nous sommes nous-mêmes impliqués. Et il faut se faire force et violence pour se dire, mais je, ça commence à faire partie de moi, je ne veux pas. Le Saint-Esprit nous entraîne à marcher selon la vérité, selon l'intégrité, selon l'authenticité. Et je ne voudrais pas accepter, moi, que l'on vienne me parler d'une chose ou d'une autre qui n'est pas l'approbation de Dieu. Alors on peut parler de certaines choses, bien sûr, mais Dieu nous appelle à avoir du discernement sur ce qui est à sa gloire et sur ce qui n'est pas à sa gloire. Sur ce qui pourrait être de l'information ou ce qui pourrait être de la diffamation. Vous me suivez ? Parce que Dieu attache de l'importance à chacun et chacune d'entre nous, et que nous ne sommes pas en mesure de dire, je ne suis pas en mesure de dire, ma sœur, ce que Dieu fait précisément dans ta vie. Je ne suis pas en mesure de dire, mon frère, ce que Dieu fait précisément dans ta vie. Parce que c'est une affaire entre toi et lui, et il ne viendra pas forcément me parler de tes affaires. Il ne viendra pas forcément me parler de tes affaires, mais il me parlera déjà d'abord de mes affaires à moi. Il me parlera déjà d'abord de ce qui me concerne moi. Où en est mon cœur? Où en est ma situation devant Dieu? Où est-ce que je me situe? Moi qui dis être baptisé du Saint-Esprit, moi qui dis j'ai été baptisé d'eau, où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que je me laisse entraîner par toutes sortes de courants qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Est-ce que je me laisse entraîner de droite et de gauche? Ou est-ce que je garde ma pensée concentrée sur Christ, ma pensée cherchant le Christ et faisant abstraction de tout ce que je vois autour de moi, même peut-être même de l'apparence d'un frère ou d'une sœur, pour espérer, pour espérer contre tout ce que mes yeux voient et bénir au lieu de maudire. Et faire du bien au lieu de faire du mal. Et parfois on pourrait se dire, bon, voilà, c'était dans un coin. Mais moi j'ai vu des situations où d'un petit feu est né un grand feu. Et on s'est pas rendu compte à un moment donné, mais ça c'est des petites paroles à droite à gauche. Alors, désolé, je crois que le Seigneur veut peut-être dire quelque chose, mais on pourrait parler de petites paroles qui ont été données comme ça. C'est devenu un grand feu. Et on s'est pas rendu compte que dans ce grand feu, nos propres vies ont été empoisonnées parce qu'à un moment donné, une rumeur ou une situation n'a pas fait face au refus d'un enfant de Dieu de dire « Je ne poursuivrai pas dans cette voie-là. » Parce que ce n'est pas cela, ce n'est pas de cette manière que Dieu voit les choses. Ce n'est pas comme cela que Dieu voit les choses. Parce que Dieu prête attention de la vie de chacun d'entre nous. Dans Jean chapitre 14, au verset 16 à 17, Jésus-Christ a dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le monde ne peut recevoir. Dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. » Nous sommes appelés à témoigner, mais à témoigner selon la vérité. Mais il ne s'agit pas uniquement de délivrer un message. Il ne s'agit pas uniquement de dire, voilà, écoute, j'ai reçu Christ dans mon cœur, voilà, je te donne le message comme ça, et puis de s'en aller. Dieu ne s'attend pas à ce que notre vie soit uniquement dans le faire, dans le paraître, dans ce que je peux faire, dans les projets, dans les événements que je peux monter, dans toutes sortes de choses, mais dans ce que je suis. Et le Saint-Esprit, il est un esprit de vérité parce qu'il touche notre cœur, parce qu'il touche au plus profond de nous, parce qu'il connaît le plus profond de nous, il connaît le plus profond du Père, et qu'il veut mettre ces deux-là en relation pour que notre vie soit influencée, pour que notre vie soit conduite, soit dirigée. Et on fait parfois l'erreur de croire que lorsqu'on parle de témoignage, c'est quelque chose qu'on fait en faisant abstraction de ce que l'on est. Et j'aime bien parce que quand Dieu parle, et particulièrement par exemple pour des prophètes, les prophètes dont on lit l'histoire dans la Bible, ce ne sont pas uniquement des personnes qui viennent et qui délivrent des messages. Ce sont des personnes dans la vie de qui Dieu travaille pour que leur vie soit un message. pour que leur vie, le témoignage qu'ils donnent ne soit pas uniquement des paroles, mais ce soit le témoignage d'une vie, ce soit ce qu'ils vivent personnellement. Et quand on vit une chose ou une autre, peut-être bonne, peut-être mauvaise, on peut interroger, on peut se dire, Seigneur, fais que ma vie soit un témoignage à ta gloire. Fais que de ma vie, je puisse rendre témoignage de ce qui s'y passe. Parce qu'on oublierait facilement que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné comme une puissance, une force, une source prodigieuse de miracles, et les disciples ont fait plein de miracles. Mais on oublie que de tout cela, il y a aussi la nature essentielle qui trouve sa source dans l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. La puissance que les disciples ont reçue lorsque Jésus leur a demandé d'attendre, il leur a demandé d'attendre une puissance. Il leur a demandé d'attendre cet esprit qui leur révélerait toutes choses, qui leur montrerait où aller, qui leur montrerait au point que la prière même des disciples n'est pas la même. Lorsqu'ils vivent des tourments, lorsqu'ils vivent des troubles, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole. Donne-nous d'annoncer ta parole en toute assurance. En toute assurance, parce que ce qu'ils avaient reçu, c'était cet esprit de vérité. Un cheminement selon la vérité. Et cette vérité, lorsqu'on la reçoit, elle doit jaillir d'une manière ou d'une autre. Elle doit jaillir d'une manière ou d'une autre. Le témoignage ne peut qu'être porté lorsque cette vérité, nous la recevons pleinement dans le cœur. Et Jésus ne leur demande pas d'attendre une puissance pour donner juste leur témoignage, afin que vous soyez mes témoins. Il leur a donné une puissance pour être les témoins. La nécessité d'être est toujours plus importante, elle est toujours plus exigeante que la nécessité de faire. Que la nécessité de faire des projets, ça implique un engagement total de notre propre vie. Un engagement total de notre personne. Nous ne pouvons être sans faire, mais nous ne pourrions rien faire sans être. Nous ne pourrions rien faire sans être. Et c'est là que Dieu veut travailler dans nos cœurs et dans nos vies, dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes individuellement, dans ce que nous sommes en tant qu'Église, lorsque nous nous rassemblons les uns les autres. Et si Dieu travaille la vie de chacun avec puissance, lorsque nous nous plaçons devant lui, lorsque Dieu travaille la vie de chacun avec puissance, la puissance de cet ensemble de vie, lorsque l'Église se rassemble et qu'elle se retrouve, alors, est-ce que ce ne sera pas une louange puissante à la gloire de Dieu ? Est-ce que ce ne sera pas quelque chose dans lequel Dieu dira « Waouh ! Waouh ! Voici mon esprit est posé sur vos vies. » Voici, toutes choses peuvent devenir nouvelles, toutes choses peuvent être renouvelées par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 4, versets 23 à 24, il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ne laissons pas nos vies devenir des mensonges. Ne laissons pas nos vies devenir un tissu de mensonges par des petites taches de droite, de gauche. Et ça vient vite. Le péché vient plus rapidement que le rétablissement dans lequel des fois nous pourrions être empreint d'amertume, empreint de rancœur. J'ai pris des batailles, j'ai été blessé au cours de la bataille, parce que Dieu veut guérir nos cœurs, bien sûr. Mais la blessure vient rapidement, quand on n'y prend pas garde, quand on laisse les choses passer, quand on laisse cette distance passer entre Dieu et nous, entre cet esprit et entre l'esprit de Dieu. Et si nous écoutons, si nous prenons ce temps pour écouter Dieu, nous l'entendrons clairement dire, nous verrons clairement dans notre cœur ce qui nous pose problème. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Pourquoi est-ce que finalement j'ai agi de la sorte? Pourquoi je me suis laissé prendre? Et ça aurait été bien que ce soit avant que cette réflexion-là, nous la fassions. De sorte que Dieu puisse diriger notre vie pour être une source de bénédiction. Le Saint-Esprit nous a été donné, nous est donné encore, afin que nos vies soient le reflet de la vérité, de ce qui est vrai. La Bible nous dit qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Il suffit de pas grand-chose. Tout à l'heure, on a pris le repas ensemble, et le pain, c'est un pain donc azim, qui n'est pas levé, symbole de ce corps qui a été sans levain, qui a été sans péché, qui n'a pas été levé par la pâte du péché, qui n'a pas été levé par toute l'imperfection de ce monde, mais qui est sans tache ni ride, et dans lequel Dieu veut nous entraîner parce que le désir de Dieu, l'appel que Dieu a formulé dans son Église, c'est de former une Église sans tache ni ride. Une Église qui marche dans la vérité. Une Église qui n'accepte pas le mensonge. Obéir, désobéir. Quand on ralentit, quand on voit un feu stop arriver comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ouais, bon, je vais ralentir. Et on ralentit quoi? Allez, à 90%. Mais on passe quand même. Quand il y a un feu stop, quand il y a un panneau stop qui nous arrive. Mais finalement, ça, c'est pas obéir à 90%, c'est plutôt désobéir à 100%. C'est désobéir entièrement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et si on semble des fois réussir à tenir dans le mensonge, en affichant peut-être des signes extérieurs de spiritualité, des signes extérieurs de « voilà, je suis proche de Dieu, je suis... » On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à Dieu. Et il n'y a vraiment pas de quoi être fier, de se dire « waouh, aujourd'hui encore c'est passé. » Parce qu'à un moment donné, ça finit par casser. Parce que c'est plutôt le signe de l'échec de nos propres vies à être attentif à la volonté de Dieu, à être attentif à la voix de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons authentiques. Authentiques dans nos paroles, authentiques dans nos actes, authentiques dans nos signes d'affection les uns pour les autres, authentiques dans notre être et dans notre adoration. Portés par la vérité. Travailler à une culture plus que à des projets, à une culture de vie, plutôt qu'à travailler à des projets qui nous donneront l'impression de faire des choses pour Dieu. C'est bien de faire des choses pour Dieu, mais avant tout, avoir cette culture de la vie de Dieu, cette culture de la relation avec le Saint-Esprit, avec le Père. Et bien sûr, il peut nous arriver de tomber. Je ne parle pas de Marc qui est tombé là. Ça pourrait nous faire rire, mais je pense qu'il rigole pas beaucoup. Et ça doit nous encourager à prier pour lui. Parce que ça aurait pu être très grave. Franchement, honnêtement, ça aurait pu être très grave. Et comme quoi, quand on tombe, on pense toujours, bon, ok, je vais me relever. Mais ça peut être très grave. On ne sait jamais comment on va tomber. On ne sait jamais si on va pouvoir se relever. Mais grâce à Dieu, dans bien des situations, même si l'on tombe, Dieu nous donne la force de nous relever. Et il souhaite que nous trouvions la force de nous relever pour rectifier le tir, pour que le péché qui a cherché à habiter notre cœur s'en aille. Personne n'apprend à marcher en un jour. Mais il faut du temps et il faut de la persévérance. Et si on tombe, eh bien, la gloire et la joie de Dieu, c'est que l'on puisse se relever. Ce n'est que pour mieux. Déjà, commencer par se courber devant Dieu. On peut en profiter pour se courber devant Dieu quand on tombe, pour ensuite se relever en lui, se relever dans sa présence, se relever en cherchant sa face par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc je bénis le Seigneur pour ces baptêmes d'eau que nous aurons la semaine prochaine. Et je bénis encore plus le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit qu'il donnera à ceux qui le demandent, à ceux qui le recherchent d'un cœur pur, pour que leur vie puisse être conduite. Que ce ne soit pas juste un départ, bien sûr, mais que leur vie puisse être conduite. Et nous, ensemble, nous prions et nous disons, Seigneur mon Dieu, instruis-nous, encourage-nous. Tu vois des fois comme c'est dur, tu vois des fois comme la tentation est forte, elle est grande, c'est vrai. Mais Seigneur, garde-nous de tomber. Garde-nous de tomber, garde-nous, Seigneur, de nous laisser tenter, Seigneur, par le mal. Délivre-nous du mal, comme tu l'as donné en exemple, Seigneur. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'il appartient toutes choses. Seigneur, éclaire-nous de ta vérité. Non pas de la vérité de ce monde, non pas de la vérité de ce que l'on entend. Non pas, Seigneur, de cette joie, des fois, de ce petit plaisir, de ces petites tâches, ces petites choses qui font que, ah tiens, c'est rigolo ou autre chose. Mais de ce sérieux que nous pouvons avoir devant toi. Parce que nous pouvons rire, nous pouvons nous réjouir de beaucoup de choses. Mais il y a des choses, Seigneur, nous voulons avant tout nous attacher avec sérieux à ce qui te fait plaisir à toi, à ce qui te fait rire et sourire et réjouir à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, ce matin dans la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs. Merci pour le don de l'Esprit que tu nous as donné. C'est un don extraordinaire, Seigneur. Tu veux conduire nos vies, Seigneur, en commençant par cette croix, en commençant, Seigneur, par cette souffrance que tu as accepté de porter, Seigneur, sur toi. Cette résurrection, Seigneur, qui est la victoire, et cet esprit qui nous conduit, Seigneur, dans une vie nouvelle avec toi. Que nos vies soient renouvelées. Si elles ont été tentées par la faiblesse, parce que nous sommes faibles, Seigneur, et nous avons besoin, Seigneur, de la force qui est en toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu rapproches nos vies de la tienne sans cesse, toujours. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci parce que tu révises nos voix, Seigneur, sans cesse. Et nous voulons te dire, Seigneur, sois libre. Sois libre de corriger toute chose dans nos vies. Sois libre de corriger, Seigneur, ce qui ne va pas. Parle-nous, Seigneur, éclaire-nous si Seigneur, le péché, Seigneur, entache nos vies, nous empêche de voir là où nous ne sommes pas, Seigneur, pleinement dans ce que tu voudrais, Seigneur. Mais parle-nous. Inspire, Seigneur. Inspire, souffle. Souffle pas seulement ce souffle de chaque instant que nous vivons quand nous respirons, mais ce souffle de l'Esprit. Et Christ a soufflé sur les disciples et ils ont reçu, en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Alors Seigneur, souffle sur la vie de chacun d'entre nous afin que nous recevions pleinement le Saint-Esprit. Je prie Seigneur, je ne veux pas que ce soit juste une parole, Seigneur, que nous pourrions dire « Seigneur, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit », mais une vie transformée, renouvelée. Seigneur, pour que la vie de ton Église, elle aussi, soit transformée et renouvelée en profondeur, dans toute la profondeur qui la tienne. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.